France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Soyez les bienvenus sur Inter. Nous sommes le vendredi 28 mai. Bonjour Laurence Thomas.
Bonjour Nicolas.
À la une de l'actualité ce matin, le laboratoire Pfizer attend aujourd'hui le feu vert de l'Agence européenne du médicament sur une autorisation du vaccin pour les 12-15 ans. Une question, est-il utile de les vacciner? Réponse après les autres titres, Laurence.
Campagne électorale et pandémie ou le casse-tête des candidats qui doivent batailler avec des jauges dont la réglementation est souvent bien complexe. France et Afrique, où quand Emmanuel Macron fait de leur relation un marqueur de sa diplomatie, le chef de l'État est aujourd'hui en Afrique du Sud. Ne dites plus Total, mais Total Énergie, énergie au pluriel. Le géant pétrolier change de nom aujourd'hui, réorganise ses activités vers les énergies renouvelables, mais il est loin d'abandonner l'or noir pour autant.
Invité et rendez-vous d'Inter ce matin à 7h45, le débat éco avec Thomas Piketty et Dominique Seux. Ce matin, le rachat de la MGM par Amazon. Il y a du mouvement et du sérieux mouvement dans l'univers du divertissement. À 8h20, le grand entretien de la matinale avec la sociologue au CNRS, spécialiste de la sociologie de l'art, Nathalie Hennick. Elle publie un texte brûlant, un brûlot. Ce que le militantisme fait à la recherche, c'est chez Gallimard, dans la collection Tract. Vous pourrez dialoguer avec elle au 01 45 24 7000.
France Inter.
Doit-on vacciner tous les enfants contre le Covid-19? L'Agence européenne du médicament se prononce aujourd'hui sur une autorisation du vaccin Pfizer pour les 12-15 ans. Si feu vert, restera ensuite à définir le calendrier et surtout à trancher sur l'utilité ou non de cette vaccination contre le coronavirus. Véronique Julia.
L'avis de l'Agence européenne du médicament devrait être un feu vert. Aux États-Unis, le vaccin Pfizer est déjà autorisé pour les 12-15 ans depuis 3 semaines. Dans la foulée, la Haute Autorité de Santé devrait donner ses recommandations pour les mineurs en France en milieu de semaine prochaine, mais il n'est pas dit qu'elle se prononce pour leur vaccination immédiate. Pour les jeunes, on le sait, le risque de faire un Covid grave est extrêmement faible. Le bénéfice de la vaccination est donc davantage collectif qu'individuel et comme il reste encore beaucoup d'adultes à vacciner, pas d'urgence pour les 12-17 ans, d'autant que les vacances arrivent et avec elles le casse-tête de la deuxième dose. Il devrait donc être préconisé pour eux un début de vaccination plutôt à la rentrée avec des injections, pourquoi pas au sein même du collège, comme l'a suggéré la semaine dernière Alain Fischer, le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Pour les moins de 12 ans, les enfants, on manque de données scientifiques, des essais cliniques sont en cours. Si ça devait se faire, ce ne serait sans doute pas avant 2022 et d'abord pour atteindre l'immunité de groupe. S'ils sont très peu touchés depuis un an, 500 enfants ont malgré tout développé en France un syndrome inflammatoire lié au Covid qui les a conduits à l'hôpital.
Véronique Julia. Et puis lundi, une nouvelle étape pour la vaccination contre le Covid. Tous les plus de 18 ans peuvent s'inscrire depuis hier pour recevoir leur première injection. Cela signifie, d'après le calcul de Doctolib, que le nombre de personnes éligibles à la vaccination est 50 fois plus important que le nombre de rendez-vous disponibles chaque jour. Alors il faudra être patient. Arthur Thirion est le directeur général de Doctolib.
C'est une accélération de la campagne de vaccination qui déjà a bien évolué depuis, puisqu'à date, il y a quand même 400 000 rendez-vous qui sont pris chaque jour par les Français pour leur vaccination. On va passer à 28 millions de Français qui vont être éligibles à la vaccination. Donc, c'est 28 millions de Français qui vont pouvoir prendre un rendez-vous. Donc, ce qui est très important d'avoir en tête, c'est que on va avoir 28 millions de Français qui vont pouvoir prendre un rendez-vous pour de la vaccination. On va avoir 500 000 doses disponibles par jour. Et donc ça, c'est important de le comprendre parce qu'évidemment, on va avoir beaucoup plus de demandes que de rendez-vous qui vont être disponibles. Donc tout le monde ne va pas pouvoir pour autant avoir son rendez-vous de vaccination lundi ou la semaine prochaine.
Arthur Thirion, le directeur général de Doctolib. Cette information de Frédéric Vidal dans Le Parisien ce matin, la ministre de l'Enseignement supérieur. À la rentrée, dit-elle, les étudiants pourront suivre tous leurs cours en présentiel et la vaccination ne sera pas obligatoire. Et dans ce contexte de pandémie, pas facile de faire campagne. Les régionales, c'est dans 3 semaines et c'est un véritable casse-tête pour les candidats. Déconvenue cette semaine de l'insoumise Clémentine Autain, candidate en Île-de-France, elle voulait organiser un meeting en plein air. Sauf qu'un décret limite à 50 personnes la jauge autorisée pour une réunion politique si les gens sont debout, dehors et dans l'espace public. Une mesure incohérente pour Clémentine Autain qui a déposé, Élodie Forêt, un référé liberté devant le tribunal administratif.
Dans la dernière ligne droite, la question agite les états-majors. Peut-on organiser un meeting? À quelles conditions? Dans les salles, les règles semblent claires. Public assis, un siège sur deux avec des jauges restreintes, 65% à partir du 9 juin. En plein air et debout, c'est plus flou selon le décret du 21 mai. La jauge est dérisoire, 50 personnes. Mais cette disposition ne concernerait que les lieux publics. Le 12 juin, Jordan Bardella, candidat RN en Ile-de-France, organise ainsi dans une cour de ferme un meeting a priori sans restriction. Nous parlons régulièrement au comité de suivi. Jamais on ne m'a indiqué de jauge, précise-t-il. Soutenant son adversaire insoumise, je trouve ça délirant. Clémentine Autain, elle dénonce des règles arbitraires alors que récemment, 35 000 policiers se sont rassemblés devant l'Assemblée nationale. Il n'y a rien de comparable, se défend le ministère de l'Intérieur, puisque les manifestations, elles, sont autorisées. Quant au meeting de Jordan Bardella, Beauvau assure que rien n'est encore tranché pour les lieux privés. Il serait temps à 3 semaines du premier tour.
France Inter, il est 7h06, Rwanda, puis Afrique du Sud. Laurence, le président de la République, tente de construire une nouvelle relation entre la France et l'Afrique.
Objectif affiché d'Emmanuel Macron, attendu aujourd'hui à Pretoria, après 24 heures passées au Rwanda, depuis son arrivée à l'Elysée. Il a fait de l'Afrique l'un des grands axes de sa diplomatie. Il l'a encore rappelé hier soir en inaugurant le centre culturel francophone de Kigali, la capitale rwandaise. Reportage de l'envoyé spécial de France Inter, Simon Le Baron.
Emmanuel Macron en est convaincu. Cette nouvelle relation passe par la jeunesse.
Cette jeunesse africaine est une chance inouïe. Et nous n'avons, nous, qu'un défi, mais il est immense. C'est de l'éduquer, c'est de l'élever. Et je le dis pour les Africaines et les Africains dans leur pays, mais je pense que c'est aussi un devoir des Européennes et des Européens.
Mais pour reconstruire cette connexion franco-africaine, il faut repartir sur un pied d'égalité, condition indispensable pour Carole Karemera, artiste belge d'origine rwandaise.
Je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement la France qui essaie de repenser sa relation à l'Afrique, parce que je pense qu'il était temps. C'est une autre génération d'économistes, d'artistes, de scientifiques qui arrive et qui dit « Bon, la France fait partie du monde, n'est pas le centre du monde. »
Car il y a encore beaucoup à faire, ajoute l'intellectuelle franco-rwandaise Assumpta Mugiraneza, pour effacer les stigmates de la colonisation.
Quand on aura déconstruit ces idéologies coupables et rétrogrades et qui devraient nous faire rougir, alors là on pourra parler de se retrouver pour que les Français qui viennent en Afrique ne soient pas des expatriés, pendant que les Africains qui vont en France soient des immigrés.
Un travail qui doit permettre, selon Emmanuel Macron, de réconcilier la jeunesse africaine, mais aussi une partie de la jeunesse française d'origine africaine avec la France, mais un travail qui n'en est encore qu'à ses débuts.
Et au lendemain de cet acte de contrition de la France, l'Allemagne, elle aussi veut faire la paix avec son passé. En question, le premier génocide du XXe siècle, le génocide oublié de Namibie. Depuis une trentaine d'années, les descendants réclamaient reconnaissance et réparation auprès de l'Allemagne. C'est chose faite. L'Allemagne reconnaît ce matin avoir commis un génocide contre les populations des Hereros et des Namas et va verser plus d'1 milliard d'euros d'aide au développement. Total vire au vert pour la première fois depuis la fusion avec Elf, il y a 20 temps, le géant du pétrole change de nom. Il va s'appeler Total Energy, une nouvelle carte d'identité qui sera validée par les actionnaires aujourd'hui. Le groupe veut ainsi mettre en avant ses investissements dans la production d'électricité verte, mais Total Energy est loin de renoncer aux hydrocarbures, Delphine Simon.
Officiellement, le pétrole n'est plus une priorité pour Total. D'ici 2030, la demande mondiale va baisser. On ne peut pas aller contre le marché, affirme Patrick Pouyanné, son PDG. Changement de nom, de logo, pour une stratégie moins centrée sur le pétrole, plus sur les renouvelables. D'ici 10 ans, Total promet d'investir 25 milliards d'euros dans le solaire et l'éolien offshore, mais il vendra toujours 85% d'hydrocarbures. Certes, il y aura plus de gaz que de pétrole, mais c'est encore un combustible fossile, dénonce Caroline Avant, chargée de plaidoyer chez Oxfam France.
Investir dans le gaz à aujourd'hui lui permet en fait de verdir, enfin, de faire diminuer l'intensité carbone de son mix, mais c'est une fuite en avant et qui ne permet pas de faire diminuer suffisamment ses émissions en valeur absolue. L'Agence internationale de l'énergie le dit clairement, un réchauffement limité à 1,5 degré n'est en fait pas compatible avec de nouveaux projets extractifs.
Pas convaincu non plus, certains actionnaires minoritaires de Total réclament des objectifs plus ambitieux. Comme l'an passé, ils prévoient de s'abstenir ou de voter contre la résolution climat du pétrolier lors de son assemblée générale. Un vote qui aura valeur de test selon les ONG.
Delphine Simon, c'est un partenariat original pour réguler le flux touristique. touristique et surtout éviter l'arrière-goût de bouchon qui vient gâcher les vacances et saturer de belles régions peu habituées à une saturation de voitures. La région PACA lance un dispositif avec l'application de guidage Waze. Explication Delphine Evenou.
Les calanques de Marseille, le Mercantour, le Verdon, l'été c'est somptueux, les corps sont pollués par les embouteillages et le stationnement sauvage. L'idée du dispositif est de proposer aux visiteurs un parking moins saturé, un point de départ de navette pour les derniers kilomètres, voire une crique ou un chemin désert. Loïc Chauvelon, directeur général du comité régional de tourisme de la région.
C'est d'éveiller aussi la conscience du visiteur sur le fait qu'il n'est pas obligé d'aller exactement au même endroit que son voisin ou que ce qu'il a vu sur Internet, mais en faisant un tout petit peu plus d'efforts, il aura le même effet waouh, mais avec beaucoup moins de monde autour.
Pour cela, une alerte s'affiche sur l'application de l'automobiliste en cas de saturation dans l'un des 8 parcs naturels où le dispositif va être déployé. Après une expérimentation concluante sur 4 sites l'été dernier, Jérôme Marty, directeur général de Waze France.
Les résultats étaient super concluants puisqu'on avait touché 325 000 conducteurs, donc 325 000 conducteurs qui avaient été exposés au message et au dispositif. Et sur ces 325 000 conducteurs, 28 000 avaient répondu favorablement à l'option proposée.
La région espère cet été dérouter 10% des visiteurs pour mieux répartir aussi les retombées économiques du tourisme.
Il est 7h11, il y a 150 ans aujourd'hui, Laurence, s'achevait le dernier jour de la Commune de Paris.
Dernière journée sanglante d'une semaine sur les barricades qui a vu mourir au moins 10 000 personnes. Une plaque commémorative des derniers combats est accrochée à Paris, dans le 11e arrondissement, rue de la Fontaine au Roi. Et c'est dans cette rue, ce soir à 19h, que la troupe de théâtre Ombre en Lumière va faire revivre cette dernière journée. Stéphane Capron a assisté aux répétitions.
Nous rêvons la révolution sociale dans la plus haute acceptation d'idées qui soit possible.
La barricade dressée dans la rue sera en carton, un décor factice mais des paroles fortes qui ont été prononcées par les protagonistes de l'époque, rassemblés par Gabriel Debré.
Il s'agissait vraiment de tricoter ces témoignages en évoquant toute cette dramaturgie de l'histoire, pour le coup réelle. Ça doit faire écho avec aujourd'hui aussi bien par exemple la pensée d'André Léo sur l'égalité que Eugène Varlin sur l'asservissement des travailleurs.
Et la parole importante des femmes portée par Louise Michel.
L'épouse, comme le chien de berger, garde le troupeau.
Mais nombre de femmes révoltées se sont engagées dans la lutte tout simplement et sans rien demander.
Pour la metteuse en scène, Cathy Couronne, la rue est un formidable espace de jeu.
Tout ce que vous entendez, ça a été écrit par d'autres gens. Et d'où le travail après de la mise en scène, de la mise en espace, pour rendre vivant comme si c'était des dialogues, alors qu'on n'a fait aucune écriture. C'est du réel.
À travers cette évocation de la Commune, c'est un pan de l'histoire du mouvement ouvrier qui va revivre ce soir dans les rues de Paris.
Ce n'est pas le pilier du bagne, c'est l'honnête homme dont la main...
Le spectacle est gratuit, c'est à 19h donc, rue de la Fontaine au Roi à Paris, dans le 11e arrondissement. Et l'entrée des spectateurs se fera par le numéro 1 de la rue.
Merci, très important. Très important. Merci Laurence Thomas. Secret d'info dans 3 minutes avec aujourd'hui une enquête sur les réunions non mixtes de l'UNEF.